Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Patrimoine, spectacle, visite et initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 7 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi pour ce Franche Culture, Marie et nos deux Bénédictes, bonjour à vous.
Bonjour.
Aujourd'hui, Marie, vous nous emmenez à la galerie d'Itivo, une galerie d'art de l'Université d'Angers.
Oui, on va aller voir une expo photo.
On aiguise notre appétit avec Bibliovore. Bibliovore, ou comment dévorer des bouquins sans modération. Et pour commencer, on reste dans l'univers de la lecture avec Tolkien. Quel lien entre l'univers de Tolkien, les tapisseries d'Aubusson et le château de Saumur? On n'y avait pas pensé, mais c'est passionnant. C'est parti pour 25 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Bénédicte, c'est Estelle Géraud que vous avez interviewée par téléphone depuis le studio et qui nous révèle le lien entre Tolkien, le château de Saumur et les tapisseries. On écoute l'interview.
D'accord. Estelle Géraud, bonjour. Vous êtes conservatrice du château de Saumur et commissaire de l'exposition Tolkien, le pouvoir de l'imaginaire, d'Aubusson à Saumur, voyage en terre du milieu. Elle se termine juste après les vacances de la Toussaint. Alors honnêtement, quand j'ai vu le titre, j'étais très surprise. Je me disais, Tolkien, Aubusson, Saumur, mais quel est le rapport? Tolkien, le grand écrivain que tout le monde connaît, qui a écrit notamment Le Seigneur des Anneaux, sur lequel les étudiants écrivent des thèses, qui est tellement célèbre en Angleterre et partout dans le monde. Aubusson, on se souvient des tapisseries, Saumur et son château au-dessus de la Loire. Quel est le rapport?
Quel est le rapport? C'est que Saumur est propriétaire d'un très grand patrimoine lycée, donc de tapisseries, notamment de tapisseries d'Aubusson. Et donc nous sommes en lien avec la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Et en suivant leur actualité, on a eu l'idée d'emprunter quelques œuvres issues de cette tenture tolkienne réalisée par Aubusson, qui est toujours en cours de tissage. Donc on voulait exposer des tapisseries récentes, contemporaines, si on peut dire, les mettre en regard avec certaines de nos tapisseries de nos collections, issues de collections, qui sont aussi bien du Moyen-Âge que du XVIIe siècle. Et pourquoi Saumur également? Parce que Saumur est un château médiéval dont la représentation fantastique dès le XIVe siècle a marqué en fait les esprits et a contribué à créer cet univers de médiéval fantasy que ensuite Tolkien a développé, comme vous le disiez, dans Le Seigneur des Anneaux, et c'est un univers culturel dans lequel nous baignons. Donc en fait, on explore tout cet univers, le Moyen-Âge, Tolkien, la tapisserie, la fantasy, ce récit littéraire, qui crée tout un univers parallèle quelque part dans lequel nous vivons tous.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer plus ce que c'est exactement qu'Aubusson et comment Aubusson a eu l'idée d'aller chercher Tolkien?
Alors, Aubusson, c'est un centre de production de tapisseries depuis probablement la fin du Moyen-Âge. Les sources ne sont pas toutes d'accord entre elles, mais on suppose depuis la fin du Moyen-Âge. Et depuis les années 2010, enfin la fin des années 2000, il y a eu une grande recréation de toute cette filière qui était quand même en souffrance, hein, on s'en doute bien, à la fin du XXe siècle. A été créée à ce moment-là la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, qui reprend le musée, qui est aussi un lieu de formation, un lieu de création, un lieu d'exposition, donc avec des collections anciennes et récentes. Et au moment de la création de cette Cité internationale de la tapisserie, les responsables se sont posé la question: comment aujourd'hui traduire dans un langage contemporain une tradition lycéaire ancestrale qui serait de renouer avec les grandes tentures. Une tenture, en fait, c'est un ensemble de tapisseries qui raconte une histoire. Et les tentures, d'autrefois, étaient créées, traduisant en images des textes, que ce soit des textes littéraires, des textes bibliques, des textes mythologiques. Donc, et Aubusson s'est posé la question, quel serait le grand texte rassembleur aujourd'hui qui parlerait à tous comme la mythologie pouvait parler à tout le monde au XVIe siècle. Le choix s'est vite porté sur Tolkien. Alors, pas uniquement Le Seigneur des Anneaux, mais toute la production littéraire de Tolkien. Aubusson a contacté la famille Tolkien et le Tolkien Trust et le Tolkien Estate pour proposer cette idée. Les tractations ont duré quelques années, mais la famille Tolkien était très enthousiaste. C'était la première fois qu'une proposition leur était faite, ainsi de traduire l'œuvre de Tolkien en tapisserie. Et c'est ainsi que Aubusson s'est lancé dans l'interprétation de Tolkien en tapisserie, dans une série de 16 tapisseries, à partir, et là aussi le choix a été longuement discuté, à partir des dessins de Tolkien lui-même.
Ah,
Tolkien, en parallèle de son écriture, dessinait. Alors, Aubusson aurait pu choisir d'autres illustrateurs de Tolkien, mais finalement, là, c'est aussi la première fois dans l'histoire de la tapisserie, des tentures, que l'auteur du texte est également l'auteur des dessins, qui ont ensuite donné lieu aux cartons qui permettent la fabrication des tapisseries.
Ce qui veut dire que toutes les tapisseries qu'on voit sont issues de Tolkien lui-même. Il n'y a
Exactement.
Pas de réinterprétation par d'autres artistes.
Non, c'est les dessins de Tolkien qui ont été ensuite travaillés, interprétés par les lissiers d'Aubusson et de Felletin.
Et comment on passe d'un dessin, d'une aquarelle à une tapisserie?
Et oui, ça c'est tout le travail d'Aubusson qui est assez complexe. Alors, le choix s'est porté sur un certain nombre de dessins qui sont conservés à Oxford, à la Bodleian Library. Ces dessins ont été numérisés en très haute définition. Ils ont été imprimés sur papier agrandis à l'échelle choisie pour chaque tapisserie. C'est-à-dire qu'un comité de tissage s'est créé et a défini le cahier des charges en fait pour toute la tenture, avec le type de coloris, le type de laine, le type de tissage, hein, puisqu'on va donner un style, une unité à la tenture. Et donc ce cahier des charges est transcrit par la cartonnière sur la photo, donc imprimée en très grand format. La cartonnière, elle, va ajouter des indications au feutre, à la gouache, voilà, elle va souligner certaines choses, elle va ajouter des codes couleurs, et les lissiers vont utiliser ce carton, ils vont le poser sous leur métier et vont suivre ce carton au fur et à mesure du tissage.
Estelle Géraud, on continue avec la découverte des tapisseries de Tolkien au château de Saumur.
Oui.
Et en fait, on voit, vous avez combien de tapisseries sur, vous n'avez pas toutes les tapisseries de Tolkien?
Non, on n'a pas toutes les tapisseries. On a 3 tapisseries et 2 cartons. Et je suis contente qu'on puisse exposer des cartons, parce que le public a extrêmement peu d'occasions de découvrir des cartons.
Et ils sont extrêmement clairs. On voit notamment ces cartons avec plein de numéros qui représentent
oui,
les couleurs.
Oui, c'est ce code utilisé entre la cartonnière et les lissiers.
Pour que pour qu'on rentre mieux dans l'univers de Tolkien, il n'y a pas uniquement des tapisseries qui sont exposées.
Tout à fait. Nous avons plusieurs apports d'objets. Hein. On a puisé dans nos collections du château-musée pour illustrer plusieurs thèmes. Alors, on développe en fait des thèmes littéraires, du genre littéraire de la fantasy. Donc, ça peut être le combat, le héros, le Moyen-Âge. On va aussi explorer la déclinaison en musique et en art visuel. On explore aussi toutes les déclinaisons dans la pop culture. Donc, ça va être la bande dessinée, le jeu vidéo. Donc ça, on a aussi des prêts consentis par des institutions ou par des particuliers. On a fait venir des armures, certains viennent de Château de la Loire, par exemple. Nous avons des armes éditées suite à la sortie des films, en fait, du Seigneur des Anneaux, des films de Peter Jackson. On a également donc des bandes dessinées. Et j'ai aussi fait intervenir un artiste contemporain, Émeric Luisset, qui lui nous a fait une installation sur, parce que je voulais parler comme ça de cette empreinte de l'œuvre de Tolkien qui est énorme dans tous dans notre champ de l'imaginaire et aussi dans les lectures qui ont été faites dès la parution de l'œuvre de Tolkien, les lectures qui cherchent des parallèles avec le monde réel. Et aujourd'hui, Le Seigneur des Anneaux se retrouve en fait dans le conflit en Ukraine, et donc Émeric Luisset a fait a fait des recherches sur tout ce thème et nous propose une installation sur la lecture du conflit à travers l'imagerie populaire du Seigneur des Anneaux.
Est-ce que vous pouvez approfondir justement le conflit d'Ukraine dans le Seigneur des Anneaux, parce que ça paraît loin quand même.
Ça paraît loin, mais en même temps, dès que le Seigneur des Anneaux apparu, les lecteurs ont voulu faire le parallèle avec la guerre froide. Tolkien s'est toujours défendu d'avoir écrit une allégorie d'un événement en particulier. Certes, il a reconnu que la guerre de 1914-18 à laquelle il avait participé l'avait marqué, l'avait traumatisé, et que donc la description de la guerre était issue de son expérience, mais lui, il ne voulait pas, il n'acceptait pas qu'on fasse des parallèles de la sorte. Sauf que à chaque période, le Seigneur des Anneaux est réapproprié et approprié par ses lecteurs et interprété, en fait. Et comme le Seigneur des Anneaux a paru dans les années 50, le parallèle avec la guerre froide était assez évident pour tout le monde. Voilà. L'Est, la lutte du bien contre le mal, l'industrialisation, tout ce que tu veux, tout ce qu'on veut, en fait. Les thèmes sont tellement universels qu'ils sont très parlants. Et donc, même si Tolkien n'était pas d'accord avec cette interprétation, le fait est que les lecteurs du monde entier se l'approprient souvent de cette manière. Voilà. Et donc après, dans les années 60 et 70, c'était la guerre du Vietnam. Et c'est aussi à partir du moment où les hippies aux États-Unis ont fait cette lecture avec la guerre du Vietnam que l'ouvrage a eu du succès aux États-Unis. C'était une entrée, en fait, dans un pays. Et aujourd'hui, cette lecture peut être vue dans la guerre en Ukraine, mais par les deux parties. En fait. Depuis la guerre froide, la Russie a finalement accepté d'endosser le rôle qu'on lui assignait, le rôle du méchant. La fin de l'URSS, parce que l'ouvrage n'était pas rentré en URSS, mais dès que l'URSS est tombé, des traductions sont arrivées, et la Russie a dit « Ah, on est les méchants, eh bien d'accord, on assume. » Et donc, il y a une identification des deux côtés, et c'est à la fois de la fanfiction. En Russie, Kirill Leskov a écrit un ouvrage. Alors, les Russes aiment beaucoup comme ça détourner les œuvres qui arrivent d'Occident avec beaucoup d'humour. Kirill Leskov a écrit Le Seigneur des Anneaux un peu à l'envers. Comme on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, là, Kirill Leskov a décidé d'écrire l'histoire du côté des orques, qui sont les perdants, et du coup, qui n'ont pas pu raconter leur version. Et en fait, les orques, c'est les gentils. Ils doivent affronter les méchants humains manipulés par Gandalf diabolique et les elfes manipulateurs.
Tout est retourné.
Même récemment, extrêmement récemment, Poutine avait offert aux membres de la CEI, donc des dirigeants des anciennes républiques de l'URSS, des anneaux avec un texte gravé sur les anneaux. Donc il avait offert 8 anneaux, il a gardé le 9e pour lui. La référence est absolument assumée.
Et total. En fait, si vous voulez découvrir ce magnifique travail, je suis désolée, mais l'interview arrive à échéance.
Ah,
je suis navrée, mais vraiment, j'en pousse tous les auditeurs à venir découvrir ce magnifique travail qui dépasse donc de loin Saumur jusqu'au 5 novembre. Donc, il y a toutes les vacances de la Toussaint pour en profiter.
Exactement.
Je vous remercie mille fois, Estelle Géraud.
Et puis,
on aura l'occasion de se reparler, j'espère, bientôt.
Merci Bénédicte pour ce magnifique sujet. Je rappelle qu'Estelle Géraud est conservatrice du château de Saumur. Donc l'exposition Tolkien, le pouvoir de l'imaginaire, d'Aubusson à Saumur, voyage en terre du milieu, c'est jusqu'au 5 novembre. Tous les renseignements sur le site du château de Saumur. On fait une petite pause musicale avec The Grogans, un groupe australien de surf rock. C'est frais et joyeux et actuellement ça nous fait du bien. Les Grogans seront Joker's Pub à Angers le mardi 31 octobre. C'était la chanson Lemon to My Limes des Grogans. Je rappelle que les Grogans seront au Joker's Pub à Angers le mardi 31 octobre. Et tout de suite, France Culture continue sur les ondes de Radio Campus. On poursuit avec vous, Marie. Vous êtes allée à la galerie d'Ithivon.
Le service culturel de l'Université d'Angers a choisi pour thème de son année la question des corps, du corps, dans son acceptation la plus large, en écho à une actualité nationale de retentissement international, petit roulement de tambour, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Bon, pour l'instant, on est en 2023 et à Angers. On se rend à la galerie d'Ithivon, située à la bibliothèque universitaire Saint-Serge, pour l'exposition du photographe Denis Darzac, intitulée « Faire corps ». Et qui se tiendra jusqu'au 3 décembre 2023.
Alors qu'est-ce qu'on verra? Est-ce que ce sont des mannequins dans cette exposition? Puisque vous avez parlé de corps.
Non, ce sont deux séries de photographies. Une intitulée Hyper et l'autre Acte. Avec Hyper, ce sont des corps en mouvement, souvent en train de faire un saut, donc plutôt des corps suspendus, dans une torsion ou tombant à la renverse. Et le fond des photos, c'est des rayons de supermarché, d'où le nom Hyper. L'impression de voir des corps en fuite, cherchant à s'extraire de ce lieu qui est conçu pour les obliger à consommer. Rien de sinistre, c'est très coloré, à l'image de la multitude de produits dans les rayons parfaitement alignés. Mais les corps ne se soumettent pas au consumérisme, ils s'échappent. L'autre série, Acte, est le résultat d'un travail mené pendant 2 ans avec des personnes handicapées qui ont été photographiées où ils voulaient. Alors c'est dans un musée, sur un toit terrasse d'immeuble. Et eux aussi, ils sont en mouvement.
Alors vous êtes allée la voir, cette expo, Marie. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi, j'ai beaucoup aimé. Dans les deux séries, on trouve la recherche de liberté avec ce qu'on a à notre disposition, notre corps. Et on se met en mouvement. On échappe à la contrainte de la société de consommation, ou alors aux limites que pourrait nous poser un handicap. Une exposition à voir, des grands formats, 1 mètre sur 1,50 m, un thème cohérent, bien traité par un artiste contemporain.
Alors cet artiste, c'est Denis Darzac. Parlez-nous-en, qui est-ce exactement?
C'est un artiste français, né en 61, qui vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l'École nationale des arts déco. Et il a commencé la photo en suivant la scène rock française. Il a aussi suivi des plateaux de tournage de longs métrages. Il a collaboré avec la presse nationale, notamment le quotidien Libération. À partir de 1995, il s'est intéressé aux interactions entre les personnes issues de minorités et la société, en cherchant à faire dialoguer des réalités paradoxales. En 2017, il a été lauréat du prix Nice et Fornieps pour la photo de presse. En parallèle de ses photos de corps, il est aussi passé à la sculpture, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Il est exposé actuellement en Autriche et aussi à la galerie d'Ithivon.
Donc Autriche, d'Ithivon, c'est très international, mais alors c'est quoi cette galerie d'Ithivon qui expose des artistes internationaux à Angers?
Alors c'est le pendant, ou mieux la jumelle de la Galerie 5. Bon, plus sérieusement, sur le site universitaire de Belbeil, il y a la Galerie 5, un lieu d'exposition d'art. Et en 2011, la bibliothèque universitaire du site Saint-Serge s'est elle aussi dotée d'un lieu d'exposition. Cette galerie d'Ithivon est précisément située sous l'atrium de la bibliothèque universitaire et propose 3 expositions par an consacrées à la photographie contemporaine. La galerie a été nommée en hommage au photographe Claude d'Ithivon, dont la BU possède la photothèque. Ces 2 galeries d'art sont des lieux de sensibilisation à la création contemporaine. Elles offrent des espaces d'exposition pour les artistes et elles sont à destination d'étudiants de l'université, mais aussi à tous les amateurs d'art. La preuve, on y accède librement et jusque tard le soir.
Merci Marie. Je rappelle que l'exposition Faire corps, donc, de Denis Darzac, c'est jusqu'au 3 décembre à la galerie d'Ithivon. Donc vous l'avez compris, la bibliothèque Saint-Serge de l'Université d'Angers, mais c'est ouvert à tout le monde. Tournez la page. On poursuit avec les Bénédictes qui nous présentent une jeune bouquiniste et surtout qui nous disent qu'on peut dévorer la lecture sans aucune modération.
Par hasard, en se baladant dans Angers, une boutique claire et bourrée de bouquins a attiré notre regard. Il s'agit de Bibliovore, une librairie d'occasion. Sophie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Bibliovore? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est, cette librairie?
Alors, le Bibliovore, c'est un concept qui a été créé par un tourangeau, Corentin Allais. L'idée, c'est de proposer, comme dans une librairie classique, des livres de seconde main, en parfait état, à un prix unique qui est de 3€ le livre ou 10€ les 4. Voilà l'idée, le concept de la boutique.
Donc vous êtes une franchise?
Alors c'est pas tout à fait une franchise, juridiquement c'est une licence de marque, c'est-à-dire que moi je suis indépendante, mais j'utilise le concept créé par Corentin.
Et le concept c'est quoi alors?
Alors, ce concept à la fois du prix unique, du livre, de livres en parfait état, mais de seconde main, qui sont achetés sur place, en boutique. Moi, j'achète les livres sur les heures d'ouverture de la boutique, 1 euro le kilo. Donc, vous venez avec votre sac de livres, je fais ma petite sélection, je pose les livres sur la balance, et puis, en fonction du poids, ça va donner un tarif de reprise. Et puis, voilà, je règle la reprise de vos livres.
Mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous de faire partie de cette marque Bibliovore ?
Alors, ça m'apporte un soutien, déjà, à la fois sur la création de l'entreprise, au moment de la création. Ça m'apporte également un soutien de tous les jours, puisqu'on échange tous les jours entre Bibliovore. Et puis, ça m'apporte d'utiliser un concept déjà existant, qui a fait ses preuves. Corentin Véléry, son épouse, ont commencé la vente de livres de seconde main sur les brocantes, donc notamment rue Toussaint à Angers, le premier dimanche du mois. Et puis, petit à petit, s'est posé la question de s'installer en boutique en parallèle des brocantes. Ils ont trouvé un local qui leur convenait tout à fait, rue Colbert à Tours. Et puis, avec le premier confinement de la Covid, eh bien, ils se sont penchés sur un dossier qu'ils avaient un petit peu mis de côté, qui était de développer ce concept. Et donc, ils ont créé ce système de licence de marque, puisque eux, ça ne les intéressait pas ni d'être les patrons de 10 boutiques, puisque nous sommes bientôt 10 en France, ni de faire centrale d'achat, c'est-à-dire d'acheter eux à tour les livres et de les livrer partout en France à toutes les boutiques. Hein. Faut savoir qu'on... En gros, les boutiques vont d'Angers à La Rochelle et puis de Tours à Besançon. Donc, ça faisait beaucoup de routes. On est quand même sur un concept à la fois écologique, donc limiter l'émission de CO2 en faisant l'achat et la revente au même endroit. Et puis, on est aussi sur une idée d'économie circulaire, de librairie de quartier également. Hein, donc, il n'était pas du tout question d'avoir une franchise qui chapeauterait tout et qui distribuerait seulement les livres. Hein. Ça nous permet d'être indépendant, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'un bibliovore n'est pas la copie conforme de l'autre bibliovore. On a tous notre personnalité. Notre décoration, nos goûts personnels font que les bibliovores se ressemblent sans être exactement les mêmes.
Et vous, Sophie, qu'est-ce qui vous a amené à diriger un bibliovore, à créer le bibliovore d'Angers ?
Alors,
vous aviez des études, vous avez fait des études de lettres ?
Alors, moi, j'ai un bac littéraire, effectivement. Et puis après, j'ai fait des études supérieures sur Angers en gestion diffusion des produits culturels. J'étais à l'Estua, pour les anciens qui connaissent l'Estua, aujourd'hui ça ne s'appelle plus comme ça. Et puis suite à ces études dans le secondaire, il s'est trouvé que ce n'était pas le bon moment peut-être pour le secteur. J'ai enchaîné les contrats saisonniers et puis je vous avoue que moi je n'avais pas fait des études supérieures pour appliquer des grilles de visite que d'autres avaient conçues pour moi. Hein. L'idée c'était de concevoir entièrement des parcours de visite, des animations, etc. J'étais un peu frustrée et puis dans un travail qui était quand même assez précaire. Donc en 2016, j'ai décidé au bout de 6-7 ans de médiation culturelle de changer complètement de branche et puis j'ai fait... une reconversion en licence de conseiller financier. Rien à voir, donc en banque assurance. Et puis en banque assurance, c'est pareil, j'ai pas trouvé mon bonheur. Il y a un petit confinement qui est passé par là, une naissance aussi qui est passée par là. Je suis devenue maman entre-temps. Et puis quand il a fallu retourner travailler, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de laisser mon enfant en garde pour un travail qui ne me rapportera pas grand-chose et qui en plus ne m'épanouira pas du tout. Sur ce, je suis tombée sur l'annonce de Corentin et Valérie qui proposaient d'ouvrir des bibliovores dans la ville de notre choix, alors plus particulièrement dans la ville où on habitait bien évidemment. Et puis ça, comme on dit, ça a matché, c'était presque une évidence en fait. Moi je suis dans les livres depuis que je suis toute petite. La bibliothèque municipale était presque ma deuxième maison en même temps que l'école de musique. J'ai toujours lu. Quand j'étais petite, mon rêve, si on me demandait tu rêves d'habiter dans quoi, je disais moi je veux n'importe quelle maison du moment que j'ai la même bibliothèque que La Belle et la Bête dans Disney. Voilà, c'était vraiment pour moi les livres une évidence. Le commerce, une évidence aussi. J'ai toujours eu un pied dans le commerce en travail saisonnier. Voilà, c'était vraiment... Ça matchait, comme on dit.
Et donc, vous avez cherché un local ?
J'ai cherché un local. Alors, c'est une grande aventure. Moi, je dis toujours que c'est un deuxième bébé, puisqu'il s'est passé 9 mois entre cette première rencontre avec Corentin Valérie et la naissance du Bibliovore. Il y a eu plusieurs choses. Angers, c'est très tendu. Le marché de l'immobilier professionnel est tendu à Angers. On était encore confinés, mine de rien. Donc voilà, et puis ce local, Place de la République, s'est trouvé libre par hasard. On n'avait pas du tout prévu de le visiter. L'agent immobilier me dit « Oh, tenez, on passe à côté, j'ai eu les clés hier. Voilà, on peut peut-être visiter, voir si ça vous convient. » C'était parfait, c'était lumineux, c'était bien organisé. Cette organisation, elle, me parlait. Enfin voilà, vraiment pareil, une évidence en fait.
Alors justement, après votre parcours, revenons-en au Bibliovore. Quelle est la personnalité, les particularités de votre bouquinerie ?
Alors, la particularité, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment sur un concept de librairie de seconde main. On ne dit pas bouquinerie parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la bouquinerie, c'est du vieux bouquin. Et chez nous, c'est pas du vieux bouquin. Chez nous, j'ai beaucoup de gens qui rentrent et qui me disent « Mais comment vous pouvez vendre des livres neufs à ce prix-là ? » Eh bien, c'est qu'ils ne sont pas neufs. Ils sont d'occasion, effectivement, c'est de la seconde main. Donc voilà, mais organisé comme dans une librairie de neufs, ce qui peut parfois, voilà.
Comment vous faites votre choix de livre ? Est-ce que vous êtes obligé de suivre ce que font les autres bibliovores ? Ou est-ce que vous avez votre personnalité ?
Alors... la personnalité entre en jeu, mais je dirais que c'est plus les goûts de la clientèle qui entrent également en jeu. C'est-à-dire que moi, mes goûts personnels vont faire que je vais être plus pointue dans certains domaines. Par exemple, la thématique histoire, qui de par mon parcours personnel est plus facile pour moi à maîtriser. La thématique jeunesse, j'ai un petit bout de 4 ans à la maison, donc forcément je baigne dedans. Mais après, c'est vrai que on a des bases qui sont posées par la licence de marque, c'est-à-dire des livres en parfait état, plutôt récents. Alors, le repère qu'on donne aux gens, c'est avec un code barre, parce que voilà, ça permet d'éliminer les livres qui sont d'avant les années 90. Ouais. Voilà.
D'accord. Et comment, justement, vous renouvelez les livres ? Parce que c'est des quantités astronomiques, puisque c'est 1 euro le kilo.
C'est ça.
Comment
alors,
ça se passe ?
Moi, j'ai un fonds permanent d'à peu près 6000 titres qui sont dans les étagères. Et toutes les semaines, j'ai à peu près 600 nouveaux ouvrages qui arrivent, qui sont uniquement apportés par les gens. C'est ce que je précisais tout à l'heure. Vous venez avec votre sac et je rachète vos livres 1 euro le kilo. Le renouvellement se fait assez naturellement en fait, avec les achats des gens. Et puis moi je fais tourner les étagères régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a des livres que je mets devant ou derrière.
Et donc vous arrivez à tout vendre ? Ou est-ce qu'il y en a que vous êtes obligé de mettre au rebut, au plomb ?
Alors,
enfin, je sais
au rebut, ça va être plutôt des choses qui se sont abîmées au fur et à mesure qu'elles ont été manipulées. Mais c'est vraiment à la marge. Voilà, après quand je vois que des livres sont dans l'étagère depuis un petit moment, moi, je fais un petit carton, je les mets en réserve et puis c'est éventuellement des livres qui pourront ressortir plus tard. Mais non, il y a vraiment très peu de pilons ou de rebuts chez nous.
Et alors, une dernière question, comment est-ce que vous communiquez ? Est-ce que vous avez un site internet ? Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Comment ça se passe ?
Alors, on a effectivement un site internet qui est celui du Bibliovore, de la marque Le Bibliovore, qui permet de voir les conditions de reprise et puis toutes les boutiques. Et puis, à titre personnel, chaque boutique anime une page Facebook ou Instagram, ou les deux. Personnellement, j'ai les deux. Ce qui permet un petit peu, toutes les semaines, de présenter les derniers livres qui sont arrivés. Je sais que quand j'achète, par exemple, le livre qui est demandé 10 fois par jour en ce moment, forcément, il est publié sur les réseaux sociaux. Voilà, ça permet un petit peu aux gens qui ne connaissent pas ou qui sont un petit peu loin d'Angers, parfois, d'avoir une idée de ce qui est arrivé dans la semaine et puis de...
Oui, puis j'ai oublié de parler des coups de cœur, d'ailleurs.
Ah, les coups de cœur du Bibliovore. Alors, les coups de cœur du Bibliovore, vous les retrouvez principalement dans les bacs, puisque c'est là que je mets les livres qui viennent d'arriver. Et puis ces coups de cœur, ce sont soit des lectures personnelles, soit des lectures de mes confrères et consoeurs bibliovores, puisque c'est ce que je vous disais, on échange tous les jours. Donc on parle bien entendu de nos lectures ensemble, et puis ça nous permet d'avoir des coups de cœur eh bien, pour tous les goûts, dans tous les domaines, hein, puisque je n'aime pas tous les styles de livres, mais j'aime pouvoir conseiller mes clients même dans ce que je lis moins.
Bon, Sophie, merci beaucoup. Alors, précipitez-vous au Bibliovore, rue de la République, place de la République.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, merci à nos deux Bénédictes. En tout cas, c'est la solution pour les lecteurs insatiables, le Bibliovore. Merci à Marie, à nos deux Bénédictes pour la préparation de cette émission. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h, ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux, sans modération comme la lecture. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.